13h39, on est de retour dans Trudeau-Landry. Je lisais l'ensemble des journaux ce matin, puis tu sais, des fois, il y a une nouvelle qui te marque plus que d'autres. Je vais faire abstraction de ce qui touche le procès de la belle-mère de la fillette martyre de Granby, parce que il n'y a rien qui peut accoter ça. Là, encore aujourd'hui, je lisais ça, puis j'écoutais notre collègue Alexis Sanson, que je salue, parce que ça doit pas être des procès évidents à suivre. Là.
Mais c'est quoi notre fascination pour
mais,
ça?
Non, mais
pour les détails.
C'est important que ça soit révélé. C'est important de le savoir. Parce que je comprends que quelqu'un. Parce qu'hier, on l'a reçu la question, Nico. Mm-hmm. Puis moi, quand j'étais au palais de justice, des fois, il y a des gens. Je me souviens, écoute bien ça. Quand je faisais mes reportages à Montréal, à TQS, il fallait que je donne moins de détails que quand j'étais à Québec. Okay. Comprends-tu? Parce que je faisais les deux.
OK.
Parce qu'à Montréal, t'es moins habitué aux détails. Moi, je trouve ça important, les détails, dans un procès d'une affaire horrible comme ça aussi, là. Il y a une question, c'est d'un grand intérêt public. Il y a eu de la négligence, il y a eu, je pense que c'est normal. La réalité, des fois, ça fait mal. Puis la réalité, dans le cas de cette petite fille-là, Granby, a fait mal.
Parce que c'est pas uniquement de, je pensais pas parler de ça, mais comme on ouvre la discussion là-dessus, allons-y, là, mais c'est pas, faut pas le voir d'un angle du voyeurisme ou de la curiosité malsaine. Je me souviens d'en avoir parlé dans les jours qui avaient suivi l'annonce du décès, quand le Québec en entier était choqué, quand le premier ministre avait le sanglot dans la voix à l'Assemblée nationale. Puis je me souviens que déjà, je disais, on a le devoir de savoir ce qui s'est passé, de connaître la vérité, parce que peut-être que ça va faire mal, mais c'est pas en se mettant la tête dans le sable puis en ignorant que des choses comme ça se peuvent ici, au Québec, en 2021, qu'on va collectivement se mobiliser pour que ça change. Déjà, le temps faisant son œuvre, la pandémie, tout ça, il n'y a pas personne qui se lève le matin en se disant « Hey, là, DPJ, il faut les talonner, puis il y a eu le rapport de Mme Laurent, puis OK, il y a eu un rapport, mais OK, concrètement, qu'est-ce qui a changé? » Il y a quelques semaines de ça, la DPJ de Québec, ou l'ensemble des DPJ, a publié des chiffres, des rapports, et là, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais le délai moyen pour une intervention de la DPJ, pour un signalement qui est fait et qui n'est pas un signalement de priorité 1, là, tu sais, danger imminent, là. Mm-hmm. Je me souviens plus c'était combien de dizaines de jours, mais c'était complètement ridicule. Mais c'est drôle, on y pense plus. Ben, de savoir ce qu'elle a subi, cette pauvre petite fille-là, et d'éventuellement, dans le procès, aussi mettre en lumière ceux qui n'ont pas fait leur job, là, ça fait peut-être mal, mais on est obligé de l'entendre. On doit l'entendre si on veut s'assurer que ça se reproduit.
C'est pas une pièce de théâtre, là, ce qui est arrivé. C'est arrivé pour vrai à Granby. C'est pas comme une série. Tu peux dire, OK, ça, je l'écoute plus. C'est un vrai enfant qui est décédé, qui a été maltraité comme ça. Ça fait mal, mais je pense qu'on doit y faire face. Mais en même temps, je disais commentaire qu'on recevait hier. Comprenez bien qu'on parlera pas à Alexis de ça tous les jours. Je pense pas qu'à tous les jours on va faire le récit de ça. Mais à un moment donné, il y a peut-être une limite, mais je pense que c'est plus que normal. C'est essentiel que les détails soient révélés de façon aussi précise que ça. Là.
C'est parce que toi, puis moi, puis Joe, puis Alex, on peut pas faire grand-chose pour que ça arrive.
Oh que oui, on peut faire.
Ah oui, oui, je peux. Ça peut réactiver à quel point j'ai été choqué, traumatisé, peiné, bouleversé par cette histoire-là, et faire en sorte que quand on fait du, par exemple ici, nous autres avec la tribune qu'on a, un planning d'émission, de me rappeler que ce serait pas mauvais de reparler à Dr. Carman, de parler à un tel, puis dire, hey, on est rendu où avec ça, là? C'est quoi les changements?
Il y a pas
quand
un
est-ce
impact
que la DPJ va changer, puis qu'on va s'assurer que ça se reproduise plus? Comment on améliore les mécanismes pour détecter ce genre de cas-là? Pour intervenir plus rapidement, c'est à ça que ça sert. C'est pas. Faisons pas l'erreur de le voir comme étant de la curiosité mal placée ou quoi que ce soit.
C'est parce, sinon, c'est quoi la solution? C'est-à-dire, il y a trop de détails, parlez-en pas. Ouais. Ça ne peut pas être ça. Je veux dire, on peut
non,
pas faire
pas
ça.
Non, c'est pas ça. Mais il y a peut-être un entre-deux. Il y a peut-être un entre-deux.
Ben, je pense que hier, ce qu'on a fait, c'est un peu l'entre-deux. C'est Alexis le raconte. Une fois que c'est dit, on ne fait pas répéter. Hey, tel détail. Tu sais, comprends-tu, Nico? C'est. Je pense qu'on fait pas notre job si on raconte pas en détail. On peut pas commencer à dire c'est trop difficile à entendre, parlez-en pas. De la misère avec ça, tu sais. Ben. Il faut l'encaisser ce qui s'est passé. Puis faut tirer des leçons de ça, comme Joe dit. Puis la petite utilité qu'on a, nous autres, des fois, des médias, c'est ça. Tu sais, je pense pas qu'on change le monde. Mais des fois, on peut avoir cette utilité-là de faire changer les choses avec des événements comme ça.
Puis ultimement, je pense que les gens ont aussi le loisir de parce que je juge pas ceux qui ont pas envie d'être exposés à ça, mais ils ont le loisir de changer de poste ou de tourner la page du journal ou changer de poste de télé.
Mais si on met, après, si on fait semblant droit. Que ça existe pas, ça changera.
C'est ça, mais nous on fera pas semblant que ça existe pas. Mais non. Si quelqu'un, comme je te dis, je le juge pas, considère que parce que des fois il y en a chez qui ça va éveiller, mettons, des blessures, raviver des blessures ou quoi que ce soit. Mais justement, je vais faire le lien avec ce dont je voulais parler parce que tu disais, c'est pas un théâtre, là. C'est pas un film, c'est arrivé pour de vrai à Granby. C'est un peu dans cette direction-là que je voulais aller par rapport à ce qui s'est passé à Montréal en début de semaine. Et donc, ce que j'allais dire au début du bloc, c'est que c'est l'autre nouvelle qui m'a le plus interpellé. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Il y a un jeune de 16 ans qui a été assassiné à Montréal en plein milieu d'après-midi lundi. Janay Dopwell Bailey, âgé de 16 ans. On comprend que ça semble être des chicanes de gangs de rue. Là, on parle des, j'imagine que ça doit être en anglais, là, les 160 ou 160, là, les 160 de Côte-des-Neiges et les OXB, les Oxford Block. Et ce qui s'est passé, c'est que ce sont des jeunes de gangs de rue qui se chicanent. Il y a souvent des altercations et tout ça. Et là, ce jeune garçon-là de 16 ans a été assassiné. On pourrait parler longuement de la problématique des gangs de rue tout ça. En même temps, ça nous touche peut-être un peu moins à Québec, même si je pense que ça existe dans une certaine mesure. Mais c'est ce qui s'est passé après qui me traumatise. C'est que les jeunes qui ont assassiné ce garçon-là de 16 ans ont publié une vidéo Snapchat. Si vous avez pas vu ça, là, c'est parlant de choses choquantes, là, je l'ai regardé. Vidéo Snapchat où ils sont 3-4 avec des cagoules. Ils dansent sur du gros rap. On appelle ça du drill rap dans l'article de la presse. Et ils ont mis une infographie marquée Come get your boy. Venez chercher votre gars. Et là, ils dansent sur du rap avec un couteau puis ils simulent le stabbing, le fait de poignarder. Donc, ils ont assassiné un jeune de 16 ans. Puis ils ont fait une vidéo pour se réjouir.
Pour célébrer ça.
Et là, la gang opposée a elle aussi fait une vidéo disant qu'il était pour se venger. Puis là, eux autres, ils ont refait une vidéo pour les narguer en disant « Ouais, c'est ça, tu sais, vous vous dites des gangsters, mais vous faites appel à la police pour vous défendre. » Et quand j'ai vu ça, j'ai pensé, puis là, je vais être curieux de t'entendre, Alex, puis Nico aussi. J'ai pensé à un documentaire que j'ai regardé en fin de semaine, qu'Alex aussi a regardé, c'est sur Amazon Prime, hein?
Ouais.
Sur un rappeur qui s'appelle Tekashi 6ix9ine. Peut-être bien des gens qui ne le connaissent pas, mais c'est certain qu'il y a du monde qui le connaît. Ce gars-là était un jeune du Bronx, de New York, Danny Hernandez, son nom. Et dans les dernières années, il s'est fait connaître en faisant des vidéos de rap de très piètre qualité. Là, on s'entend que c'est pas... Moi, j'aime pas le rap en général, mais toi-même, Alex, tu dis que c'est pas la musique que t'aimes, là.
Non.
Mais ce qui fait que le gars a fait parler de lui, qui est devenu une vedette. Écoute, des dizaines de millions de visionnements de ses vidéos, puis les contrats de musique, puis de l'argent, puis ouais donc. C'est en faisant des vidéos où il vivait à plein la vie du gangster rapper avec, tu sais, il se faisait faire des fellations dans ses vidéos avec des filles une par-dessus l'autre, puis des marques de violence. Puis là, à un moment donné, ça a été plus loin à avoir une affiliation avec des gangs de rue reconnus, le fameux bandana rouge, des Bloods et tout ça, les armes à feu. Puis tu te rends compte qu'il y a une espèce de culture, puis... Tu me le diras, Alex, j'ai l'air d'un vieux mononcle en disant ça, mais moi, je suis très, très, très inquiet de voir qu'il y a vraiment une culture qui s'est instaurée sur la banalisation, la mise en scène même de tout ce qui est la violence, la criminalité, puis tout ça, et que là, ça fait en sorte que dans la vraie vie, là, pas dans les vidéos de Tekashi 6ix9ine là, que tu regardes pour te divertir, dans la vraie vie, c'est ça qui est mis en application.
C'est-à-dire,
hey, on va aller stabber quelqu'un, là, puis on va aller faire une vidéo, puis on va danser, puis...
Ben, puis la réalité, c'est pas Jérôme, beau, là. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est que ce gars-là a maintenant la réputation de snitch parce que comme lui, il faisait rien, mais il se tenait avec des gangs de rue notoires de Brooklyn.
Ouais.
À un moment donné, ils ont dit, tu nous dis tout ce que tu sais ou tu rentres en dedans. Et au final, il a participé à faire donner 40 ans de tôle à 11 individus. Fait que, tu sais, c'était des vrais bums, là, des gens qui commettaient vraiment des actes criminels.
Il y a des petits
bums
qui trouvent ça cool, toute cette culture-là.
Lui, il voulait dans ses vidéos. Exact. Il voulait dans ses vidéos de 3 minutes, mais il se tenait avec réellement. Fait qu'il devenait comme coupable par association, si tu veux, participer à des vols à main armée, à tout ce qui se peut pas. Puis effectivement, ce que nous explique le réalisateur du documentaire, c'est que ce qu'il l'a fait connaître, c'est ça. C'est carrément ça. C'est le fait d'être avec des guns, des sacs de potes gros comme mon corps. Puis ça fait réagir. Ça fait réagir. Est-ce que ça donne le goût de tomber là-dedans puis d'inspirer des jeunes à aller dans le vice? Je sais pas. Je sais pas si c'est plus un spectacle que...
Le problème, c'est que quand, tu sais, puisque le documentariste essaie d'éclaircir, puis c'est vraiment bon comme documentaire, là, ça dure 1h40, même si vous aimez pas le rap, comme moi, j'ai trouvé ça ben intéressant, c'est qu'il demande, elle est où la ligne entre le gars, le jeune, que plusieurs décrivent comme ayant été quand même un bon kid quand il était plus jeune, et le personnage qui s'est créé pour être populaire. Puis là, maintenant, tu te rends compte que la ligne est devenue assez diffuse, puis qu'il est devenu le personnage qui l'incarnait, mais... Le problème, c'est que le jeune de 14, 15, 16 ans qui lui suit ça, lui, il a fait pas la part des choses, là, que c'est un personnage. Puis quand il voit avec un gun dans les mains, une prostituée avec lui, en Lamborghini, une Lamborghini qu'il a loué dans le fond pour tourner une vidéo, lui, il se dit, hey, moi, je veux ça. Tu sais, moi, j'aurais pas accès à l'égalité des chances. Puis, fait que ça va être ça. Moi, la voie que je vais emprunter, ça va être ça. Là, le résultat, c'est que, puis je dis pas que si on a vu, là, par exemple, sur Snapchat, puis à Montréal, ça découle exactement de ce genre de d'exemple-là, mais. De voir qu'après ça, il y a des jeunes qui reproduisent ça à un point tel que tu as des ados de 14, 15, 16 ans qui célèbrent le fait d'avoir tué quelqu'un d'autre sur Snapchat en arguant avec la petite musique, des infographies et des effets. Je me dis, hey, c'est-tu rendu qu'on n'est plus capable de faire la part des choses puis qu'on en est venu à banaliser la violence à ce point-là? Je trouve ça épouvantable.
C'est clair. Mais ça, là, ce que tu dis là, c'est un gros facteur également. Là. Tu sais, je veux dire, je comprends que ça va être des peines à vie. Là. De toute façon, une peine à vie... Parce que les autres, le procès, tu commençais dans cette affaire?
Non, ça s'est passé cette semaine. Lundi, il y a eu le meurtre, mardi,
ils ont comparu, mais sérieusement, c'est un énorme facteur aggravant, ça là. Très, très gros facteur aggravant. Quand tu fais une vidéo en plus pour célébrer ça, là, tabarnouche, c'est une autre ligue, là. Aïe, aïe.
Alors voilà, c'est assez perturbant de voir que des scènes comme ça se passent pas loin de chez nous à Montréal. 13h51, très exactement, on s'arrête, on revient.